dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras?
Médecine à deux vitesses, en tout cas pour moi dans mon quotidien, c'est que effectivement la prise en charge à l'hôpital notamment, l'hôpital public, elle s'est considérablement dégradée depuis une dizaine d'années et que ça répond plus à la mission de prise en charge des gens en soins. Et qu'effectivement, quand on a des créneaux dans des cliniques, avec des référents avec lesquels on travaille, et ben on a plus facilement accès à la prise en charge de nos patients quand on passe par l'intermédiaire du secteur privé.
Vous êtes généraliste, c'est ça?
Ouais. Moi, je suis généraliste. J'ai une double activité. Je suis généraliste libéral à Marseillan. Et un jour par semaine, je travaille en équipe mobile de soins palliatifs, mais dans une clinique privée. À Montredon-les-Corbières, là, à côté de Narbonne. Donc, j'ai deux activités. Mais oui, je suis généraliste libéral 3 jours par semaine.
D'accord. Ça veut dire que concrètement, par exemple, quand vous avez un patient qui a besoin de consulter un spécialiste, il lui faut 2 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous, c'est ça?
Ben, minimum, suivant les spécialités. En dermatologie, dans mon secteur à moi, c'est les rendez-vous se prennent. Alors, je ne parle pas là du secteur public, je parle juste de l'accès aux spécialistes, qui sont libéraux aussi. Il y a 2 ouvertures de calendrier, une au 2 janvier et une au 2 juin. Et dans les 3 premières heures de la journée, qui sont de 1h du matin, de minuit à 2h, sont pris.
Ouais.
Enfin, donc du coup, voilà, vous êtes la nuit, vous avez à tout prix votre rendez-vous chez le dermato, et du coup, ben, vous vous levez dans la nuit pour essayer d'avoir un rendez-vous pour le semestre à venir. Ou vous prenez un rendez-vous avec votre médecin généraliste qui n'a pas beaucoup de place pour que celui-ci motive une consultation auprès de la secrétaire pour l'intercaler dans un pseudo rendez-vous d'urgence. Mais ça, c'est que si vraiment la lésion en question justifie un rendez-vous d'urgence. C'est-à-dire que moi, pour garder le lien de confiance avec mes confrères et consoeurs, je n'appelle pas pour le grain de beauté disgracieux.
Oui, voilà. Bien sûr. Mais vous pouvez intercéder quand même en faveur de vos patients en fonction de l'état de la situation.
Oui. Ça, je peux intercéder, oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça me prend du temps, voilà. Et il faut faire un courrier et il faut motiver vraiment l'avis. Mais oui, je peux le faire, bien sûr que je peux le faire.
Et donc ça a quelles conséquences?
Ben, ça a une conséquence, c'est que ben, moi, je le fais gratuitement. Ou alors, il bloque un rendez-vous. Et que du coup, dans l'esprit des gens, en fait, je suis j'ai un peu des fois l'impression d'être un distributeur de lettres d'adressage aux spécialistes, en fait. Les gens, comme ils savent que le rendez-vous sont loin, et ben souvent, ils ont pris en amont le rendez-vous avec la secrétaire. Ils ont intercalé un rendez-vous avec avant, et du coup, parce qu'ils savent que je leur ferai la lettre, enfin, ils viennent pour me demander la lettre d'adressage, et c'est pas moi qui décide de l'adressage au spécialiste, en fait. Ça, c'est assez... alors, c'est pas une généralité, hein, mais la déviance de ce système-là, du coup, elle amène à ça, c'est-à-dire que les gens ont peur de pas avoir le suivi annuel, par exemple, cardiologique, de ne pas avoir accès à leur cardiologue, les gens âgés souvent, et ben du coup, ils anticipent les rendez-vous, et du coup, ils arrivent, et lors de leur renouvellement, ils me demandent en plus la lettre pour le suivi, alors que la lettre de suivi du cardio, c'est pas forcément une obligation. Si le cardiologue dit « venez toutes les années me voir », pas obligé à chaque fois d'avoir la lettre du médecin traitant qui réadresse toutes les années.
Et dans votre pratique de généraliste, comment vous appréhendez la situation, les évolutions législatives,
les... Alors,
les problématiques qui se posent par rapport au simple fait de faire votre métier comme il faut, quoi.
Alors, je suis inquiète, mais je suis pas une militante, donc je ne sais pas me rebeller contre le système, mais c'est comme ça, c'est inhérent à moi. Enfin, voilà. Et du coup, je ne pratique pas de dépassement exceptionnel là, comme une partie de la population médicale a fait déjà depuis un an, de faire payer 30 euros la consultation de médecine générale au lieu de 26,50 obtenu l'année dernière. Évidemment, ce que je trouve ça ridicule d'être. Quand je vois la qualité, alors c'est peut-être. Ça peut paraître orgueilleux ce que je vais dire, mais quand je vois la qualité du travail au quotidien, effectivement, 26,50, c'est vraiment se foutre un peu notre gueule, mais je ne peux pas pour autant faire porter ça aux patients, donc je reste à 26,50, même si dans le coin, tout le monde est passé à 30, là, moi, je suis la dernière résistante. Voilà. Mais en fait, enfin, moi, je trouve toujours autant de plaisir à exercer la médecine, donc. Et j'essaie de le faire au mieux, même si des fois je ronche, mais je continuerai à la faire moi, mais j'ai 53 ans, voilà, et il me reste une dizaine d'années, et je pense que je vais rester tranquille une dizaine d'années de plus, et continuer à exercer comme je l'entends, mais je suis plus questionnée sur l'arrivée de mes consoeurs et confrères pour la suite, voilà, et... leurs préoccupations ne sont pas les miennes, en fait, et leurs contraintes non plus. Et ils ont un souci de qualité de vie au travail que moi, je n'avais pas trop, en fait. Et que, du coup, dans la qualité de vie au travail, ben, ça va aussi par la rémunération, forcément. Et que voilà. Ce qui est compliqué, c'est de voir arriver... Là, actuellement, j'ai un interne avec moi pour 6 mois qui est un jour par semaine dans mon cabinet. Et c'est vrai que quand aujourd'hui, par exemple, c'est typique quand il y a un patient qui n'est pas venu et il m'a dit « Est-ce que tu vas lui faire payer la consultation la prochaine fois ?» Enfin, et du coup... J'avais pas du tout pensé, moi, à potentiellement faire payer la consulte qu'il avait mobilisée sans l'utiliser aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais bon, enfin, ce qui pourrait m'inquiéter, c'est qui est à la fois le fruit du système actuel et aussi de l'évolution de la société, le rapport au travail de toute de la génération du moment. Parce que c'est dans toutes les... J'écoute aussi bien des ostréiculteurs, des vignerons, des profs, des banquiers, enfin, au cabinet. Et le rapport au travail n'est plus du tout le même.
Tout à fait.
Ça sera pareil au niveau médical. Et c'est juste ça qui questionne par rapport à, en tout cas, à ce que les gens attendent de la médecine. Je pense que les gens sont exigeants avec les soignants parce que déjà ils ont envie d'être soignés, c'est la première chose, mais ils ont aussi été habitués à l'être bien et rapidement, et que c'est difficile de maintenant pouvoir répondre non, je peux pas vous prendre pour une urgence avant la semaine prochaine, alors que avant, sans rendez-vous, avant Covid, sans rendez-vous, je prenais les gens, à peu près le même nombre qu'aujourd'hui sur rendez-vous. Je ne veux pas dire que j'en prenais radicalement plus. Mais du coup, les gens choisissaient quand ils venaient. Ils n'avaient pas de frein de prise de rendez-vous. Et je pense que c'est ça qui donnait l'impression de liberté. Voilà. Il y avait moins de contraintes pour accéder à un médecin.
Parce qu'au-delà de la dimension économique dont vous parliez, il y a aussi la dimension du temps de travail. Je regardais des chiffres. Là, on est presque, chez les généralistes, il y a pratiquement 40% à vérifier, mais de généralistes qui travaillent aujourd'hui à temps partiel.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on va garder une qualité d'exercice. Ouais. Je pense, oui, qu'il y a de ça. Mais effectivement, c'est très nouveau par rapport à l'idée du médecin de famille qu'on avait de la génération d'avant.
Oui, qui ne comptait pas 16 heures, 60 heures par semaine, qui partait la nuit.
Et la nuit était appelée se déplacer. Bien sûr.
Face à cette évolution des mentalités, qui est liée aussi, comme vous le disiez, à une dimension générationnelle, est-ce que le système de santé est en capacité de s'adapter, selon vous?
Ça, je... Je doute qu'ils soient en capacité, le système en lui-même, comme il est fait maintenant, qu'ils soient en capacité de s'adapter à ça, ouais, je doute quand même. Parce que malgré tout, les gens sont. Enfin, il va y avoir un temps de décalage entre la capacité d'évolution et d'adaptation du système de soins par rapport à celle de l'éducation de la patientèle. Elle n'aura pas le même rythme. Donc, il va y avoir là une période où le système va essayer de s'adapter, mais le système, il va faire de manière plus radicale que l'humain, la patientèle. Et que là, il me semble quand même qu'il va y avoir un moment difficile. Et moi, ce qui me questionne plus, c'est parce que nous, on nous bassine avec l'éducation qu'il faut faire aux patients. En plus de les soigner, il faut les éduquer, enfin, sur le rapport à la consommation de traitements, de machin, de trucs. Mmh. Mais ce qui me questionne plus, c'est comment on va faire pour éduquer tous ces gens au fait que oui, ben vous n'irez consulter un médecin que au bout de tant de temps d'un premier traitement, enfin d'une première prise en charge thérapeutique que vous aurez choisi tout seul.
Oui, oui, parce que maintenant il faut qu'on fasse beaucoup de choses tout seul en tant que patient.
Exactement, exactement. Oui, oui. Et ça, c'est pas donné à tout. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Bon, ok, beaucoup de personnes âgées dans ma patientèle.
Ouais.
Doctolib, ils n'ont pas d'ordi, hein. Enfin, j'en ai 25% qui n'ont pas d'ordi.
Ouais.
Et du coup, prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Alors, ils appellent la secrétaire qui à distance, qui une plateforme téléphonique, qui va les noter sur Doctolib. Mais souvent, ils frappent à la porte pour prendre un rendez-vous, en fait. Mmh. Donc, parce que bon, j'ai pas de secrétaire physiquement présent. Mais voilà, je travaille encore à l'ancienne méthode. Ça va changer, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Et du coup, les patients âgés, alors évidemment, ils n'ont pas encore 30 ans d'espérance de vie devant eux, donc ça. Mais j'ai du mal à imaginer des gens qui socialement sont défavorisés, avec des préoccupations de qu'est-ce qu'on va manger le prochain repas, et accès, et vont pouvoir organiser aussi bien leur prise en charge médicale que ceux qui n'ont pas ces soucis-là. Ça me questionne beaucoup.
T'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe,